que l'on se rencontre dans la chambre d'un des étudiants pour prier, pour étudier la parole de Dieu. En grec, s'il vous plaît, hein, le Nouveau Testament en grec. Et puis, on prend ensuite un repas par semaine, ensemble. Et puis enfin, même, on va encore plus loin, on prend la Sainte Cène. On prend la Sainte Cène ensemble. Alors ça, c'est déjà plus discutable dans le contexte de la discipline de l'Église d'Angleterre. Et puis ensuite, on instaure deux jours de jeûne et de prière par mois. Voyez-vous ? Et petit à petit, de ces réunions émerge une règle que les étudiants mettent au point, qui est une règle de piété personnelle. Et cette règle est très méthodique, et ça va servir de base, justement, à cette piété méthodiste, comme vont l'appeler ceux qui vont en être les témoins. Cette expérience est pour Wesley extrêmement importante, mais ne met pas fin à ses luttes intérieures pour autant. Il a théologiquement accepté la doctrine de la justification par la foi, mais il est bien conscient qu'il n'en a pas fait l'expérience. Il est un enfant de chrétien qui n'a pas véritablement fait l'expérience de la nouvelle naissance. Alors, il se lance à fond dans la recherche du salut, mais par une voie qui est une impasse, par des voies qui sont des impasses. Le ritualisme, le méthodisme, justement, l'ascétisme, parce que finalement, dans les règles qu'ils édictent, ces étudiants ensemble, il y a une part d'ascétisme. Et puis, il y a aussi une dimension mystique, si l'on peut dire. Hein ? Et cela ne le satisfait pas. Quelque temps au sortir de ses études, à la fin de ses études, qu'il a eu donc encore une fois très très brillante, il va devenir 2 ans vicaire dans la paroisse de son père. Donc il entre au service de Dieu, il entre au ministère, et il entre au ministère finalement sans être véritablement converti. En 1728, il a pourtant été ordonné prêtre dans l'Église d'Angleterre, n'est-ce pas ? Mais il est bien conscient qu'il n'est pas converti. Et finalement, il est très, très, comment dirais-je, très malheureux. Il n'est pas satisfait de sa situation. Il se rend bien compte, n'est-ce pas, qu'il prêche aux autres des choses que il n'a pas vécues, il n'a pas expérimentées. Et même s'il le fait avec son intellect, avec sa conviction, n'est-ce pas, il sent bien qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et c'est alors, n'est-ce pas, après la mort de son père, survenu quelque temps après, eh bien, il a une telle soif de Dieu, n'est-ce pas, qu'il se dit que peut-être son chemin pour trouver Dieu passe par un renoncement total. C'est vraiment un homme qui a une soif de Dieu extraordinaire. Et il va donc partir aux États-Unis comme missionnaire. Et son but est de devenir un missionnaire dans les conditions les plus difficiles, les plus risquées qu'il puisse imaginer. Il va aller évangéliser les Indiens. Les Indiens, qui à cette époque, nous l'avons vu, les Indiens d'Amérique du Nord, sont sous-évangélisés, sont délaissés, sont abandonnés par la plupart des chrétiens. Et il veut aussi évangéliser les bagnards. Donc vraiment, se mettre dans les conditions les plus difficiles. Alors il espère qu'en prêchant ainsi aux autres, il va trouver lui-même le salut. Donc il part à ce moment-là, accompagné de son frère, et par le plus grand des hasards, sur le bateau qui les emmène en Amérique, il y a des missionnaires moraves qui eux aussi vont en Amérique pour la même raison et dans le même but, à savoir évangéliser les Indiens. C'est le début justement de la grande expansion missionnaire du réveil morave dont nous avons parlé ensemble la dernière fois. Et c'est alors qu'au milieu de l'Atlantique, une terrible tempête s'abat sur le bateau. Bon, nous sommes encore ici au temps de la marine à voile, les bateaux sont quand même des bateaux assez costauds, mais quand même. Et là, soudain, John Wesley se trouve confronté avec la perspective d'un naufrage, donc de la mort. Et c'est alors qu'il se rend compte qu'il n'est pas prêt à affronter la mort, précisément parce qu'il n'est pas sûr de son salut. Et pendant tout le temps, les quelques jours où dure cette tempête, n'est-ce pas, il est dans un état d'angoisse terrible, n'est-ce pas, épouvanté, en fin de compte, à la perspective de la mort. Et par contre, n'est-ce pas, ce qui le frappe, c'est que les missionnaires moraves, qui sont dans la même situation que lui et qui sont dans le même bateau, bien sûr, eux sont d'un calme extraordinaire devant le danger. Ils prient, ils chantent des cantiques, et c'est une attitude tout à fait différente de celle de Wesley. Alors, la tempête calmée, Wesley les aborde, et leur demande leurs secrets, essaye de parler avec eux, etc. Et puis, il y a comme un voile dans son esprit, n'est-ce pas, finalement, le témoignage de ces missionnaires moraves ne le touche pas vraiment. Il aborde en Angleterre et il va donc se livrer corps et âme, se lancer corps et âme dans l'action pour laquelle il est venu. Il reste un an là-bas, évangéliser les Indiens, les bagnards, etc. Et au bout d'un an, il se rend compte que c'est un échec total, n'est-ce pas ? Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, et puis les résultats de son apostolat, de son ministère sont pratiquement nuls. Alors, il se décide de revenir en Angleterre. Très déçu, en fin de compte, n'est-ce pas ? Et là, dans une situation de détresse spirituelle très grande. Alors, il se souvient qu'il a fréquenté ses frères moraves pendant qu'il était sur le bateau. Il se souvient de leur foi, il se souvient de leur calme, de leur sérénité en face de la mort. Il a réalisé que ces gens-là avaient quelque chose que lui n'avait pas et que c'était précisément ce qu'il cherchait. Et de retour en Angleterre, il décide de se mettre en contact avec les Moraves. C'est l'époque où Zinzendorf a établi donc des antennes en Angleterre. Il y a des groupes de frères Moraves qui se rassemblent ça et là. Et John Wesley se met à fréquenter les réunions Moraves. Bon. C'est difficile parce que, en quelque sorte, on peut dire qu'il connaît la chanson. Il connaît l'Évangile. Il pourrait le prêcher même infiniment mieux que ces simples prédicateurs moraves qui ont une formation théologique beaucoup moindre, bien moindre que la sienne. Et alors, n'est-ce pas, pour lui, tout reste dans le domaine de l'intellectualisme, du ritualisme, du mysticisme, mais il n'arrive pas à passer vraiment au stade expérimental. Alors, il s'entretient avec différents responsables de ces groupes moraves. Et puis, ces pauvres frères moraves, qui sont des gens quand même assez simples, ils perdent un peu leur latin. Vraiment, Wesley pourrait être un cas, quoi. Hein. Et alors, finalement, en désespoir de cause, un des responsables des groupes moraves lui conseille de prêcher la foi jusqu'à ce qu'elle vienne. C'est assez curieux comme conseil, n'est-ce pas ? Bon, et alors Wesley le fait, et puis évidemment, rien ne se produit. Et puis, n'est-ce pas, le Seigneur l'attendait au tournant, il avait son heure, n'est-ce pas ? Et c'est le 28 mai 1738, quelque chose se passe. Wesley se rend, comme à son habitude, dans une de ses réunions des frères moraves. Et ce sont des gens tellement, tellement simples qu'il n'y a même pas de prédicateur au milieu d'eux. Et en général, ce qui se passe, n'est-ce pas, c'est qu'on chante des cantiques, on prie, et puis un des responsables du petit groupe, en quelque sorte, lit une prédication d'un autre, n'est-ce pas ? Et ce soir-là, n'est-ce pas, un simple frère lit une prédication de Luther sur l'Épître aux Romains. Et puis, quelque chose se passe ce soir-là, c'est un déclic. N'est-ce pas ? Alors que c'est quelque chose que Wesley connaît par cœur, qu'il a lu de très nombreuses fois et qu'il aurait été capable aussi de formuler, si vous voulez, théologiquement et intellectuellement. Ce soir-là, son cœur s'ouvre, n'est-ce pas ? Et Wesley va faire l'expérience de la nouvelle naissance. Voici comment il raconte cette expérience. Le mercredi 24 mai 1738, vers 5 heures du matin, j'ouvris mon Nouveau Testament à ces paroles. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses afin que par leurs moyens, nous devenions participants de la nature divine. Dans la soirée, je me rendis à contre-cœur à une petite réunion dans Aldergate Street et j'entendis lire l'introduction de Luther à l'Épître aux Romains. Vers 9h moins un quart, en entendant la description qu'il fait du changement que Dieu opère dans un cœur par la foi en Jésus-Christ, je sentis que mon cœur se réchauffait étrangement. Je sentis que je me confie en Christ seul pour mon salut. et je reçus l'assurance qu'il avait ôté mes péchés, qu'il me sauvait de la loi du péché et de la mort. Je me mis alors à prier de toutes mes forces pour ceux qui m'avaient le plus outragé et persécuté. Puis je me rendis ouvertement devant les personnes présentes et je leur dis ce que j'éprouvais en mon cœur pour la première fois. Voilà. Il lui a fallu des années, n'est-ce pas, pour faire cette expérience si simple, cette expérience de base de la nouvelle naissance, et finalement de faire abstraction de tous ces blocages intellectuels, etc., etc. Mais en même temps, ça vous montre, n'est-ce pas, la faim et la soif de cet homme qui ne s'est pas découragé, qui est allé chercher jusqu'en Amérique, n'est-ce pas, dans des conditions les plus invraisemblables, la réponse à ces questions était évident que, comme l'avait bien vu sa mère, une telle faim, une telle soif ne pouvait pas rester sans réponse et que automatiquement le Seigneur allait lui confier des choses extrêmement grandes. Peu de temps après, son frère Charles passe par une expérience semblable. Pour lui aussi, c'était l'heure de Dieu parce que Dieu avait un plan pour leur vie. Alors, Wesley est tellement enthousiasmé, tellement heureux, n'est-ce pas, de ce qui vient de se passer, et notamment justement de ce que cette bénédiction lui est venue par les Moraves, qu'il décide de se rendre en Europe pour prendre contact avec les Moraves qui lui ont apporté en quelque sorte cette extraordinaire bénédiction. Et c'est 6 semaines plus tard qu'il se rend en Allemagne. Et là, il se rend à Erfurt et il rencontre Zinzendorf. Malheureusement, comme nous l'avons vu quand nous avons étudié justement le réveil Morave, au moment où Wesley arrive en Allemagne, il y a un coup du diable, si j'ose dire, c'est justement le moment où Zinzendorf est dans sa phase mystico-sentimentale, etc. Enfin, ce qui sera le grand échec de toute sa carrière, c'est justement à ce moment-là que Wesley arrive donc et prend contact avec lui. Alors Wesley, qui est un homme très intelligent, qui est un homme en même temps très équilibré et qui est certes dans le feu du premier amour, puisqu'il a rencontré le Seigneur véritablement 6 semaines auparavant, eh bien, est profondément déçu. Il se rend bien compte que là, c'est pas du tout ce qu'il a vu d'ailleurs des frères qui étaient en Angleterre. C'est pas du tout ce qu'il attendait, et pour lui, c'est un coup très très dur, n'est-ce pas, que de voir la situation dans laquelle se trouve le réveil morave au moment où il s'y rend. Et c'est alors que il décide de s'en aller. Il n'a rien trouvé, et finalement il rompt avec les Moraves et il ne fera pas l'effort, n'est-ce pas, c'est assez étrange d'ailleurs, d'essayer de renouer par la suite, n'est-ce pas, quand la crise sera passée. Et d'ailleurs, pour lui, il reste sur cette idée, n'est-ce pas, les Moraves sont vraiment en plein déraillement, en plein délire mystique finalement. Lui, le délire mystique, il le connaît dans son petit groupe là-bas d'Oxford, il y avait un peu de ça aussi, donc automatiquement il a retrouvé là ce qu'il avait tant déçu, n'est-ce pas. Alors automatiquement il tourne le dos aux Moraves. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu y avoir une collaboration, n'est-ce pas, entre les deux mouvements, et qui sait ce qui aurait pu se passer alors. Bon, encore une fois, les hommes sont les hommes, et les réveils, comme les hommes, n'est-ce pas, les réveils sont les reflets des hommes. Bien sûr, c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi l'œuvre des hommes, hein. Et finalement, les réveils sont aussi d'une certaine manière ce que les hommes en font, et les hommes, avec leurs limitations, limitent aussi l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas. Bon, le Seigneur a été merveilleux tant en ce qui concerne le réveil morave qu'en ce qui concerne le réveil méthodiste, mais peut-être que les choses auraient pu être encore plus belles s'il n'y avait pas eu ces côtés-là. Mais enfin, quel est l'homme, n'est-ce pas, quel est le réveil, quel est le mouvement religieux dans lequel il n'y a pas finalement aussi du négatif. Donc, de retour en Angleterre, John va se mettre à prêcher. Là, maintenant, il a découvert, il se met à prêcher, non plus maintenant pour essayer de retrouver quelque chose, mais avec une foi, une fougue, un feu, une flamme, n'est-ce pas, d'autant plus intense qu'il a attendu de pendant longtemps, justement, cette grâce et cette bénédiction. Alors, il est accompagné de son frère Charles, et puis d'un troisième homme qui se joint à eux et qui vient de faire une expérience semblable, un jeune homme aussi, qui se nomme Whitefield. Et ces gens vont donc entreprendre une œuvre de prédication, non pas, si vous voulez, dans un lieu, mais ils vont aller de lieu en lieu. Et notamment, n'est-ce pas, parce qu'on se rend compte que ce sont des gens qui ont quelque chose. Ils ont quelque chose à donner, ils ont quelque chose à dire. Et partout où ils prêchent, les choses se passent. Il prêche avec fougue et des pêcheurs se convertissent. Dans cette Angleterre, n'est-ce pas, si mondanisée, n'est-ce pas, les églises se réveillent, des chrétiens attiédis retrouvent le feu du premier amour, se convertissent pour ceux qui n'ont jamais été convertis, et puis donc c'est aussi le début où des ivrognes, des gens de la rue, n'est-ce pas, viennent dans les églises attirés par la prédication donc de cette petite équipe de ces trois hommes, n'est-ce pas. Alors évidemment, le bruit s'en répand un peu partout, et les églises voisines entendent dire, eh bien, vous savez, nous avons eu les frères Wesley, nous avons eu une grande bénédiction, etc. Alors les uns et les autres ont soif de la bénédiction, et le trio est invité constamment de passer ainsi d'église en église. Et c'est alors que, automatiquement, bien entendu, comme l'avons vu, quand un réveil éclate, le diable ne s'en réjouit pas spécialement, et le diable essaie toujours de susciter des obstacles au réveil. Il avait fait avec le réveil de Jonathan Edwards, nous l'avons vu tout à l'heure. Bon, il va le faire aussi avec le réveil naissant en Angleterre. Et là, bien entendu, ce qui va se produire, c'est que des églises vont, si des églises acceptent les frères Wesley, d'autres, eh bien, ne veulent pas entendre parler de ce qui se passe, ne veulent pas entendre parler de réveil, ne veulent pas entendre parler de conviction de péché, de repentance, de remise en question, et puis, évidemment, aussi, de ce qui va devenir ensuite le point fort, si vous voulez, de Wesley, ce qui sera la sanctification, ça, nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Pour l'heure, n'est-ce pas, Wesley n'en est pas encore là, il n'a pas encore formulé ni élaboré cette doctrine-là, il est dans le feu du réveil, il prêche la conversion. Il prêche la conversion partout où il passe, et il se révèle être un ministère d'évangéliste extraordinaire, comme d'ailleurs Whitefield. Whitefield est un homme qui, lui, a une éloquence extraordinaire. Il a une voix de stentor, n'est-ce pas, et une voix qui porte très loin. Il a une force de conviction extraordinaire. C'est d'ailleurs une force de la nature lui-même, n'est-ce pas. Et Whitefield a aussi un impact extraordinaire dans les églises partout où il passe. Alors, évidemment, ils sont jeunes en plus de ça, n'est-ce pas. Et alors, un certain nombre de pasteurs anciens, ils ne sont quand même pas ces trois jeunots qui vont venir nous apprendre notre métier, qui vont venir tout révolutionner, etc. Il y a à la fois jalousie, opposition, tout un ensemble de choses qui font que les portes se ferment. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que Whitefield, qui se trouve à Bristol pour inviter dans une église un beau jour, au moment où il arrive pour prêcher en église, eh bien, on lui apprend que la réunion est supprimée parce que les autorités ecclésiastiques de l'endroit ont décidé que désormais, eh bien, le trio ne serait plus accepté dans aucune église d'Angleterre. Alors, gros dilemme, n'est-ce pas, pour cet homme, n'est-ce pas. Il y a là des gens qui sont venus à la réunion et qui ont envie d'entendre l'évangile, il y a des pêcheurs, etc. Bon, Whitefield ne fait ni une ni deux. C'est un tempérament entier, n'est-ce pas, qui ne détaille pas. Il rassemble tout ce monde-là dans un champ, et puis il prêche en plein air. Comme il a, encore une fois, un organe vocal très développé, ça passe très bien. Et finalement, le réveil que les autorités de Bristol avaient essayé d'empêcher va éclater là, en plein champ, en plein air. Alors, évidemment, c'est un petit peu une première dans toute l'histoire de l'Église d'Angleterre et puis dans l'histoire de l'Église. Et alors, ça devient un scandale. C'est un véritable scandale dont on parle dans toute la ville de Bristol, dont on parle dans toute l'Angleterre, n'est-ce pas? Et c'est le prétexte que cherchaient justement les autorités de l'Église d'Angleterre, qui voyaient d'un œil de plus en plus mauvais se développer le mouvement. Et qui disent, eh bien, puisque ces gens-là ne respectent plus rien, ne respectent pas les décisions des autorités ecclésiastiques, eh bien, nous interdisons à toute église de les recevoir. Et presque toutes les portes de toutes les églises, n'est-ce pas, sauf un certain nombre, se ferment. Alors, John, lui, se trouve placé devant un dilemme, parce que il est beaucoup plus fin, si vous voulez, que Whitefield. Il est beaucoup plus éduqué aussi. Il est beaucoup plus, si vous voulez, imbriqué dans le clergé, quoi, en quelque sorte. D'ailleurs, il est lui-même ordonné prêtre. Et il se rend bien compte que là, il risque un conflit avec les autorités de l'Église d'Angleterre, et par conséquent, est-ce que ça ne risque pas d'hypothéquer le mouvement? Whitefield, il n'a pas réfléchi, n'est-ce pas? Bon, on lui ferme la porte, son sang ne fait qu'un tour, il prend tout ce monde-là qui venait pour entendre l'Évangile, il s'en va dans les champs, il prêche l'Évangile sans penser aux conséquences. Wesley, lui, calcule les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se range? Enfin bref. Alors il prie, bien sûr, il cherche la face de Dieu, il étudie la parole de Dieu, puis finalement, après avoir beaucoup hésité, et à contre-cœur, hein, avec vraiment une grande crainte dans le cœur, le 29 avril 1739, eh bien, il prend la décision, lui aussi, de commencer des réunions en plein air, comme l'avait fait Whitefield. Et ça va être le caractère spécifique du réveil Wesleyan en Angleterre, c'est qu'il va avoir pour cadre la nature, les réunions de plein air, qui vont être caractéristiques du réveil wesleyan. Il arrivera à Wesley, n'est-ce pas, de prêcher à un auditoire de plus de 20 000 personnes, 20 000 personnes rassemblées en plein champ, n'est-ce pas, sans micro et sans rien de semblable. On se demandait comment il faisait dans ce temps-là, n'est-ce pas. Alors, il prêche n'importe où, dans les champs, au coin des rues, sur les places publiques, n'est-ce pas. Alors, son frère John commence à chanter, les gens s'attroupent, il prêche l'évangile, Whitefield lui succède, etc., etc. Les gens tombent terrassés par la conviction de péché, se repentent de leur péché, se mettent à pleurer sur leur péché, puis se relèvent transformés dans la joie du salut, n'est-ce pas. Et ça fait boule de neige, n'est-ce pas, des mineurs, des ivrognes, des gens de tout poil se rassemblent. Alors, c'est pas toujours de tout repos, n'est-ce pas. Parfois, n'est-ce pas, il est molesté, il reçoit des tomates, il a reçu de très très nombreuses tomates dans sa vie. Quelquefois, il est même brutalisé, n'est-ce pas. Il arrivera de recevoir des coups, certains voudront même le tuer, n'est-ce pas. Et il est parfois sauver en quelque sorte in extremis de gens qui voulaient le tuer. Et alors se reproduisent dans ces fameuses réunions ce qui s'est produit en Nouvelle-Angleterre, à savoir que les gens tombent terrassés par la conviction de péché et se relèvent sauvés. Alors, c'est la surprise pour Wesley. Il ne s'attendait pas à un tel succès. Et alors, n'est-ce pas, se pose le problème, qu'est-ce qu'il va faire de ces gens-là? Ces gens qui se convertissent. Qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Alors, il ne veut absolument pas créer une nouvelle église. Et ça, il a la même réaction que Luther, il a la même réaction que Zinzendorf, n'est-ce pas? Il veut rester absolument dans l'église d'Angleterre. Alors, bon, dans un premier temps, il dit, écoutez, allez dans les églises. Mais très vite, les gens reviennent et disent, dans les églises, on reçoit rien. Dans les églises, on nous prêche le déisme, on nous prêche le vicaire savoyard, qu'on peut être sûr de rien, que Jésus n'a pas fait de miracle, etc. Alors, ils ne sont pas satisfaits. Et Wesley se trouve devant un nouveau dilemme. Il a déjà fait un pas, une grande audace, en acceptant le principe des réunions de plein air. Et puis maintenant, n'est-ce pas, il se trouve devant un autre défi, celui de savoir comment il va faire ça. Alors, il va grouper les convertis comme il l'a fait, finalement, il se souvient du club. Donc, il a créé des espèces de clubs, si vous voulez, comme il avait fait. Mais alors, il va appeler ça des sociétés. Et ces sociétés, n'est-ce pas, vont être groupées, n'est-ce pas. Ce sont des petits groupes qui sont sous la responsabilité d'anciens, et puis qui ensemble, n'est-ce pas, se forment une classe, n'est-ce pas. Il va finalement structurer cet ensemble-là, n'est-ce pas, qui va être extrêmement nombreux très vite. Et alors, ces sociétés se rassemblent une fois par semaine sous la direction d'un laïc pour prier, pour chercher la parole, pour étudier la parole de Dieu. Et finalement, Wesley va consacrer l'essentiel de son ministère à organiser ces fameuses sociétés. Et il va parcourir pendant 50 ans de ministère, il va parcourir toute l'Angleterre dans tous les sens, n'est-ce pas, pour organiser ses circuits avec des responsables qu'il va nommer, n'est-ce pas. Autrement dit, il fait un véritable travail d'apôtre, hein, c'est exactement la fonction de l'apôtre. Et il crée des églises, finalement, qui n'en ont pas le nom, il veut pas les appeler églises, mais finalement, c'est ça. Officiellement, elles restent membres de l'Église d'Angleterre, mais dans la réalité, elles en sont séparées, quoi, hein. Et là, donc, pendant tous ces 50 ans, il va prêcher 40 000 fois. 40 000 prédications. Et c'est l'occasion pour lui d'expériences absolument extraordinaires, n'est-ce pas, qui vont marquer son ministère. En 1775, il entreprend des campagnes de réveil en Écosse et puis en Irlande. Et là, les mêmes phénomènes se produisent et finalement la même création d'entités se crée. Alors le réveil va durer pendant 35 ans. 35 ans d'un extraordinaire réveil. Et alors, évidemment, quand ces gens sont convertis, Wesley s'attend à ce qu'ils mènent une vie sainte. Wesley a beaucoup étudié l'histoire de l'Église, et notamment l'histoire de la Réforme, puisqu'il est né dans ce mouvement-là. Et bon, il a beaucoup de respect pour Luther, puisque c'est en quelque sorte par une de ses prédications qu'il s'est converti. Mais il se rend compte, si vous voulez, que la réforme a échoué sur un point, c'est qu'en insistant sur le salut par grâce qu'il fallait faire, eh bien, il a laissé de côté tout un aspect de la vie chrétienne sur lequel, finalement, Luther est passé assez vite. Il dit, Luther a dit, à partir du moment où on est converti, on va pratiquer des œuvres justes, des œuvres bonnes, parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous va produire ces choses-là. Mais, si vous voulez, pour lui, c'était une conséquence qui était logique, qui allait de soi, et qui ne méritait même pas qu'on s'y arrête. Résultat, au bout d'une ou deux générations, n'est-ce pas, le réveil, la réforme se sclérose, et on a des gens, n'est-ce pas, qui font profession de foi, de salut par la foi, mais qui mènent une vie qui n'est pas une vie digne d'un chrétien, en fin de compte. Alors ça, Wesley en a fait l'analyse avec beaucoup de finesse et beaucoup d'acuité. Et alors, il se comprend qu'il y a là une lacune, qu'il y a quelque chose à redécouvrir dans ce domaine-là. Et alors, il va insister auprès des gens qui sont convertis, car Wesley, si le début de son ministère est un ministère d'évangéliste, va ensuite son ministère va bifurquer à partir du moment où il crée les circuits. C'est-à-dire qu'il va devenir apôtre, effectivement, quoi, hein. Apôtre au sens fort du terme. Et alors, donc, il va avoir un ministère d'enseignement. Il va avoir un ministère d'approfondissement, il va avoir un ministère d'exhortation, il va avoir toutes les différentes facettes du ministère qui sont celles du ministère de l'apôtre, le ministère du gouvernement, etc. Et alors, dans son enseignement en particulier, qu'il élabore, il faut redécouvrir l'enseignement, hein, il va insister notamment sur la nécessité, comme je disais tout à l'heure, de vivre une vie sainte, qui est la conséquence du salut. Alors évidemment, quand il commence à prêcher ça, alors là, c'est le tollé général dans le clergé anglican de son temps. On prétend qu'il déraille, il sort, n'est-ce pas, de la sacro-sainte doctrine de la justification par la foi seule, et par conséquent, c'est une hérésie abominable. Wesley ne se laisse pas évidemment arrêter par ces choses-là, et il continue son petit bonhomme de chemin sans se laisser détourner par des controverses stériles. Et c'est alors qu'il va élaborer, n'est-ce pas, cette doctrine qui va être la marque du réveil wesleyen, qu'on appelle la doctrine de la sanctification. Wesley étudie la parole de Dieu, la réétudie, d'ailleurs on dira de lui qu'il est l'homme d'un seul livre, n'est-ce pas ? Il lit, relit la Bible constamment, n'est-ce pas ? C'est sa lecture quotidienne, préférée, constante, dès qu'il a un moment, il se plonge dans la parole de Dieu. Et c'est alors qu'il constate, n'est-ce pas, qu'après la conversion, il y a une deuxième expérience qui est décrite dans le chapitre 2 du livre des Actes et que le livre des Actes appelle la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Enfin, Wesley constate qu'il y a différents noms, mais que c'est quelque chose qui vient après la conversion. Et c'est alors que Wesley soulève la question, il en discute avec Whitefield, qui va être d'ailleurs celui qui va peut-être encore beaucoup plus que lui se pencher sur le problème, parce que Whitefield est finalement le théologien, mais disons le docteur, n'est-ce pas ? Wesley est l'apôtre, Fletcher, Whitefield est l'évangéliste, et Fletcher est le docteur, n'est-ce pas ? Le docteur, l'homme de la parole. Et alors donc avec Fletcher, il a des longues discussions sur cette question. Et finalement, ils arrivent à la conclusion qu'ils doivent exhorter leurs gens à rechercher cette deuxième expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que, comment est-ce que Wesley définit cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit ? C'est très intéressant parce que Wesley n'arrive pas encore à la pleine vision du baptême dans le Saint-Esprit. Il faudra attendre un siècle et demi plus tard pour que ça soit avec le réveil de Pentecôte. Mais il ouvre la voie à ce réveil de Pentecôte, en fin de compte, n'est-ce pas ? Pour lui, le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience de sanctification. Là, il a pas vu, n'est-ce pas, que le baptême dans le Saint-Esprit était un revêtement de puissance pour le témoignage. Lui, il en a fait. Il était tellement anxieux de voir les convertis marcher dans les voies de Dieu, n'est-ce pas, qu'il en a conclu que c'était l'Esprit de Dieu venait sanctifier l'être. Il n'avait pas tort, d'ailleurs, entièrement. C'est vrai qu'il y a une œuvre de sanctification. Mais, si vous voulez, là, il y a eu peut-être quelque chose qui, tout en étant tout à fait intéressant, peut-être un peu excessif, n'est-ce pas ? C'est cette idée, n'est-ce pas, qu'il n'admettra pas lui-même, d'ailleurs, mais que finalement, ses successeurs, à laquelle ses successeurs arriveront, n'est-ce pas ? À savoir que, dans une expérience de baptême dans le Saint-Esprit, que, d'ailleurs, il expérimente lui-même, D'ailleurs, comme un certain nombre de, comme beaucoup de convertis de Wesley, n'est-ce pas, il y a des manifestations du Saint-Esprit qui font que ces gens-là ont l'impression d'une plénitude du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent comme une plénitude du Saint-Esprit. Certains vont jusqu'à parler en langue, mais ils considèrent le parler en langue, si vous voulez, comme une expérience exceptionnelle, quelque chose qui n'est pas normatif. Ils n'ont pas compris que c'était un signe normatif. Et beaucoup se contentent tout simplement d'une effusion du Saint-Esprit, d'une visitation du Saint-Esprit. Alors évidemment, c'est quelque chose de bouleversant, c'est quelque chose de remarquable, et c'est quelque chose qui les enflamme d'une joie, d'un zèle, d'un amour pour Dieu débordant, qui caractérise justement le réveil méthodiste comme tous les réveils. Et donc, ils ont le désir, quand ils sont remplis du Saint-Esprit de cette manière-là, de marcher avec Dieu, de se sanctifier. Et donc, Wesley et Fletcher concluent, bien, c'est une expérience, n'est-ce pas, qui sanctifie. Et alors, n'est-ce pas, ça ne veut pas dire que celui qui reçoit cette expérience-là est parfait, mais ça veut dire qu'il a une force pour marcher vers la perfection. Alors, après, Wesley conclut, n'est-ce pas, il est très calviniste dans ce domaine-là, de la même manière que l'homme naturel ne peut pas se sauver lui-même, de la même manière, il ne peut pas devenir saint lui-même. Il a besoin d'une deuxième expérience, ça veut dire une expérience de grâce, la même grâce. Rapidement. Alors, le grand réveil de Nouvelle-Angleterre, et puis ensuite on passera beaucoup plus de temps sur le réveil wesleyen. Donc, le grand réveil de Nouvelle-Angleterre, c'est la partie est des États-Unis, les premières colonies qui ont été créées, donc, quand, si vous voulez, tout ce qui est au nord de New York, en direction de Boston, etc. C'est tout ça là, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. Et le protagoniste de ce grand réveil fut un homme du nom de Jonathan Edwards, et D-W-A-R-D-S, ces dates 1703-1756. Jonathan Edwards était a priori le dernier homme duquel on pouvait attendre que vienne un réveil. Il était en effet un calviniste extrêmement rigide et il n'avait pas d'éloquence, il n'était pas un orateur. Il lisait ses sermons depuis A jusqu'à Z avec une voix monocorde. Et il était loin d'avoir, si vous voulez, l'éloquence, l'élan, que ce soit d'un Zinzendorf, que ce soit plus tard d'un Finney ou d'un Moody ou d'un Billy Graham, quoi. C'était tout le contraire de ça. Et malgré ça, n'est-ce pas, en plus de ça, c'est un esprit philosophique. Il a des raisonnements, si vous voulez, qui ont tendance à passer un petit peu au-dessus de la tête de l'auditeur moyen. Donc, si vous voulez, il est l'image type du pasteur calviniste du XVIIIe siècle. Et voilà qu'il va y avoir, par son ministère, un des plus extraordinaires réveils qui ait marqué donc, l'histoire de l'Église. En effet, il lit ses sermons, certes, mais c'est un homme qui a fait des expériences avec Dieu. C'est un homme qui a une conviction profonde. Et cette conviction va se communiquer. En 1727, il devient pasteur de l'église congrégationaliste, c'est-à-dire qui est indépendante, si vous voulez, de Northampton. Et là, il constate que dans cette région, d'une part, et même dans l'église dont il devient le pasteur, les mœurs se sont très relâchées. Les États-Unis connaissent une vague d'impiété importante à cette période-là, tout d'ailleurs comme l'Europe. Finalement, ce sont les mêmes causes qui provoquent les mêmes effets, à savoir justement cette fameuse philosophie des Lumières. Et Jonathan Edwards se place devant Dieu, disant « Seigneur, il faut que tu interviennes ». Et alors, il va se mettre à prêcher le jugement de Dieu. Il va se mettre à juger, à prêcher sur la colère de Dieu, la sainteté de Dieu, les exigences de Dieu, la loi, etc. Enfin, tout ce qui, si vous voulez, est propre à prendre à brousse-poil des gens, justement, qui ont des mœurs se relâchées. Mais, justement, l'Esprit de Dieu va intervenir avec puissance. Et en l'espace de quelques mois, quelques mois de ses prédications, n'est-ce pas, encore une fois, qui sont faites d'une voix neutre, lue, n'est-ce pas, mais qui sont dites avec un effet de avec une solennité, une conviction, n'est-ce pas, tellement que l'auditoire est profondément saisi. Et en quelques mois, n'est-ce pas, toute la ville de Northampton est remuée par cette prédication de Jonathan Edwards. Et c'est alors que vont se produire un certain nombre de phénomènes assez particuliers, n'est-ce pas? C'est que l'Esprit de Dieu travaille d'une manière telle que, au moment où Jonathan Edwards adresse un appel à la fin de ses prédications pour ceux qui veulent mettre leur vie en règle avec Dieu et se convertir vraiment, parce que dans le fond c'est ça, n'est-ce pas? C'était des églises dont on ne prêchait plus la conversion. Eh bien, des gens vont tomber, n'est-ce pas? Certains tombent évanouis. D'autres poussent des grands cris de peur, la peur de l'enfer, n'est-ce pas ? En quelque sorte, ils réalisent que le jugement de Dieu est sur eux. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'ils sont saisis d'une telle conviction de péché qu'effectivement, il y a ces phénomènes étranges qui se produisent. Alors, très vite, n'est-ce pas, ces manifestations que Jonathan Edwards ne recherche pas, il ne cherche pas à les provoquer, et précisément... Le fait qu'il prêche d'une manière neutre comme ça est aussi une manière pour lui de prendre ses distances en disant c'est pas moi en quelque sorte qui provoque ça, c'est pas un conditionnement psychologique, c'est pas la création d'une atmosphère, d'une ambiance, n'est-ce pas, qui provoque de tels phénomènes, c'est véritablement l'Esprit de Dieu. Et alors, à partir du moment où ces manifestations se déclenchent en quelque sorte, il va y avoir une grande controverse. Un certain nombre d'églises traditionnalistes vont prendre prétexte de ces manifestations-là pour contester le réveil et le ministère de Jonathan Edwards, disant que c'est de l'hystérie, que c'est pas de Dieu, etc., etc., etc. Malgré cela, n'est-ce pas, le mouvement s'étend dans toute la Nouvelle-Angleterre. Et là, il y a un phénomène qui est aujourd'hui très, très prisé, notamment par les adeptes de la fameuse bénédiction de Toronto, qui croient pouvoir y discerner dans le réveil de la Nouvelle-Angleterre les mêmes phénomènes que ceux qui se produisent aujourd'hui. Or, quand on examine bien justement ces deux mouvements, l'authentique réveil et puis ce que j'appelle le faux réveil, n'est-ce pas, nous rendons compte qu'il y a finalement une très très grande différence. Notons une première remarque que Finet, au siècle suivant, aura un très très grand respect, une très très grande admiration pour Jonathan Edwards. Et constamment, n'est-ce pas, Finet fait référence au ministère de Jonathan Edwards et du réveil de la Nouvelle-Angleterre. Et alors, on va assister dans les réunions de Finet, nous aurons l'occasion de voir ça quand nous étudierons le siècle suivant. Dans les réunions de Finet, on aura le même type de phénomène qui va se produire. Seulement, ces phénomènes-là sont le résultat de la prédication de la sainteté de Dieu, du jugement, qui amène les auditeurs à une profonde conviction de péché. Et ça, Finet, qui est un esprit extrêmement méthodique, l'avait bien analysé, et il explique, parce qu'il y a controverse aussi, évidemment, autour du ministère de Finet, comme il y a eu controverse au niveau du ministère de Jonathan Edwards, puis Finet explique cela en disant, bien, ça, c'est la réaction, en quelque sorte, du pécheur qui, convaincu de péché, refuse de se convertir. Lutte avec Dieu, il est en contestation. Alors, automatiquement, c'est pas, il y a ce combat entre les deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit rebelle du pécheur. Et, comme c'est écrit dans le livre de la Genèse, l'esprit de Dieu conteste avec le pécheur. Et quand l'action de l'Esprit de Dieu, quand l'action de l'Esprit de conviction de péché est puissante, eh bien, effectivement, si le pécheur s'endurcit, il peut y avoir effectivement des phénomènes de ce type-là. Mais, dit Finet, ce sont en fin de compte des phénomènes qui ne sont pas normaux, parce que, n'est-ce pas, si le pécheur venait immédiatement repentant au pied du Seigneur, il ne connaîtrait pas cette espèce d'agonie, n'est-ce pas, que le pécheur va éprouver. C'est uniquement l'esprit de rébellion qui est dans l'homme, n'est-ce pas, qui fait qu'il y a des manifestations étranges de ce type-là. Et alors, Dans ces cas-là, n'est-ce pas, Finet insistait énormément, comme le fera Edwards d'ailleurs, n'est-ce pas, sur la nécessité, n'est-ce pas, d'insister jusqu'à ce que le pécheur capitule devant Dieu. Et à partir du moment où le pécheur a accepté les exigences de Dieu pour sa vie, quand il a accepté de mettre sa vie en règle avec Dieu, quand il a accepté de réparer ce qui a besoin de l'être, quand il a accepté de confesser ce qui a besoin de l'être, de prendre les engagements qu'il a besoin de prendre, alors à ce moment-là, eh bien, le fardeau est ôté. Et alors, au lieu, n'est-ce pas, de pleurs et de lamentations et de cris, parfois même de terreur, parce que, en quelque sorte, l'Esprit de Dieu montre, n'est-ce pas, à ces pécheurs endurcis la réalité de l'enfer, la réalité vers laquelle ils se précipitent, et il y a effectivement de quoi être quelque peu effrayé, même beaucoup effrayé, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Mais lorsque le pécheur a saisi la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ et qu'il a capitulé, n'est-ce pas, et que soudain il réalise que le Seigneur a lavé ses péchés et que toutes choses sont nouvelles, alors les cris de terreur se transforment en cris de joie. Et là, il y a au contraire des cris de joie, de reconnaissance, des actions de grâce qui montent vers le Seigneur. Dans la Nouvelle-Angleterre, n'est-ce pas, à la suite du réveil, il va y avoir 1/5 de la population de la Nouvelle-Angleterre qui va se convertir. Alors, c'est quand même absolument extraordinaire. Hein. Ça, c'est des choses, évidemment, comme on aimerait en revoir aujourd'hui. Jonathan Edwards va exercer son ministère dans cette ville pendant 23 ans. 23 ans au cours desquels le réveil donc va se poursuivre pratiquement sans interruption. Et puis, il se passe une chose tout à fait étonnante, incroyable, n'est-ce pas ? C'est qu'au bout de ces 23 ans, cette église, qui a été profondément remuée, qui a vu vraiment la main de Dieu, certainement comme peu d'églises en ont vu dans l'histoire de l'église, cette église congrégationaliste de Northampton, eh bien, va destituer Jonathan Edwards au bout de 23 ans d'un ministère fidèle. Motif, il a refusé d'admettre des inconvertis à la Sainte Cène. Alors là, il y a de quoi s'interroger et en même temps de s'étonner parce que constater, n'est-ce pas, que des gens pendant 23 ans ont vu le réveil, ont entendu une prédication fidèle basée sur la parole de Dieu. Et automatiquement, n'est-ce pas, ils auraient dû considérer que c'était une chose normale, naturelle, que de refuser de donner la Sainte Cène à des inconvertis. Eh bien non. Et là, on est dans une église congrégationaliste, c'est-à-dire une église qui, en quelque sorte, s'auto-administre. Un petit peu, si vous voulez, comme les églises baptistes, comme les églises, un certain nombre d'églises évangéliques indépendantes, par exemple, n'est-ce pas ? Et c'est-à-dire que il y a des anciens, des responsables, si vous voulez, qui sont élus par la congrégation, d'où le nom d'église congrégationaliste. Et il suffit, n'est-ce pas, qu'il y ait une majorité de gens qui ne veulent pas du message de la parole de Dieu. Et puis voilà, la parole de Dieu est rejetée par le simple jeu de la démocratie, par le simple jeu des 51%. Et c'est ce qui s'est passé donc pour Jonathan Edwards. Nous avons vu que s'il est vrai que un cinquième de la population de Nouvelle-Angleterre avait été convertie par son ministère, il y avait malgré tout un certain nombre de gens qui étaient contre. Ça, c'est normal. Finet aussi explique bien ça. Il est évident que quand souffle l'Esprit de Dieu, eh bien, il faut s'attendre à des oppositions de la part de ceux qui ne veulent pas du réveil, de ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Et au bout de, pendant un certain nombre d'années, n'est-ce pas, les adversaires de Jonathan Edwards avaient petit à petit, infiltré des gens à eux dans l'église mère, n'est-ce pas, l'église de Northampton. Et puis, quand ils avaient réussi à avoir la majorité, donc ils avaient pris cette décision terrible qui avait fait que Jonathan Edwards avait été donc écarté. Bien sûr, ça a été un coup terrible pour lui. Il a tenté, n'est-ce pas, de recréer quelque chose, il avait subi un choc, quoi. Hein. Bon, c'est pas question, bien sûr, ici de le critiquer. Il était dans une structure d'église qui était ce qu'elle était, et c'était difficile, bien sûr, de la changer. On pourrait peut-être dire qu'il n'avait pas suffisamment veillé à cet équilibre interne. C'est vrai qu'il avait autre chose à faire et que certainement il se remettait au Seigneur, comme étant celui qui le défendait, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu penser. Enfin, c'est pas à nous ici de faire le procès de cet homme de Dieu, bien sûr. Toujours est-il que il est mort peu de temps après, brisé, quoi, un homme brisé. Ça, c'est terrible. On voit justement les adversaires du réveil qui ont réussi à bloquer cette intervention de l'Esprit de Dieu. Donc, si vous voulez, voilà, réveil donc en Europe continentale, réveil morave, réveil aux États-Unis donc, et puis aussi donc autre grand réveil en Angleterre. Ce réveil va être un des plus grands réveils de toute l'histoire de l'Église, le réveil wesleyen, ou si vous préférez le réveil méthodiste, le réveil wesleyen, ainsi nommé par celui qui sera l'instrument de ce réveil, John Wesley. Le réveil wesleyen éclate à un moment où l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, dans laquelle naît Wesley, n'est-ce pas, est particulièrement corrompue. Nous l'avons vu, c'est le siècle des Lumières. L'Angleterre est le berceau, justement, de cette philosophie des Lumières, et notamment du déisme. Peut-être pour vous donner une idée de ce que c'est que, dans quel contexte s'est trouvé Wesley, on pourrait lire un extrait de la confession de foi du vicaire savoyard de Jean-Jacques Rousseau, qui n'était pas anglais, mais qui était fortement influencé justement par les déistes anglais. Donc c'est le vicaire savoyard qui parle et qui dit ceci. Donc il parle à un interlocuteur. « Je vous avoue aussi que la majesté des Écritures m'étonne. La sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Voyez les livres des philosophes avec toute leur pompe, qu'ils sont petits près de celui-là. Se peut-il qu'un livre à la fois si sublime et si simple soit l'ouvrage des hommes? Se peut-il que celui dont il fait l'histoire ne soit qu'un homme lui-même? Quelle douceur, quelle pureté dans les cœurs, quelle grâce touchante dans ses instructions, quelle élévation dans ses maximes, quelle profonde sagesse dans ses discours, quelle présence d'esprit, quelle finesse, quelle justesse dans ses réponses, quel empire sur ses passions. Où est l'homme? Où est le sage qui sait agir, souffrir, mourir sans faiblesse et sans ostentation? Quel préjugé, quel aveuglement ne faut-il point avoir pour oser comparer le fils de Sophronisque au fils de Marie? Quelle distance de l'un à l'autre, Sophronisque et Socrate, hein? Socrate mourant sans douleur, sans ignominie, soutint aisément jusqu'au bout son personnage. Et si cette mort facile n'eût honoré sa vie, on douterait si Socrate, avec tout son esprit, fut autre chose qu'un sophiste. La mort de Socrate, philosophant tranquillement avec ses amis, est la plus douce qu'on puisse désirer. Celle de Jésus, expirant dans les tourments, injurié, raillé, maudit de tout un peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate, prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui la lui présente et qui pleure. Jésus, au milieu d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un dieu. Dirons-nous que l'histoire de l'Évangile est inventée à plaisir? Mon ami, ce n'est pas ainsi que l'on l'invente. Et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Au fond, c'est reculer la difficulté sans la détruire. Il serait plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce livre, qui ne l'est qu'un seul en ait fourni le sujet. Jamais les auteurs juifs n'eussent trouvé ni le ton, ni cette morale. Et l'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. Avec tout cela, ce même Évangile est plein de choses incroyables, de choses qui répugnent à la raison, et qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir ou d'admettre. Vous voyez la transition, hein ? Que faire au milieu de toutes ces contradictions ? Voilà. D'un côté, si vous voulez, les protestants du XVIIIe siècle, ça c'est tout le dilemme que évoque ici Jean-Jacques Rousseau. D'un côté, ils sont les héritiers, n'est-ce pas, de tout le courant de la réforme qui insiste sur l'autorité de l'Évangile, sur le caractère unique de l'Évangile. Et un homme comme Jean-Jacques Rousseau le reconnaît, ce caractère unique de l'Évangile. Mais la raison, il y a des choses qui sont au-delà de la raison, que la raison ne peut admettre. Alors, eh bien, c'est le déchirement. Être toujours modeste, circonspect, respecter le silence de ce qu'on ne saurait ni rejeter ni comprendre et s'humilier devant le grand être qui sait la vérité. Voilà. Finalement, cette contradiction, on ne peut pas la résoudre. Et on ne peut que dire, ben, c'est Dieu qui sait. Mais finalement, ce Dieu, on ne peut pas le connaître. Il est celui qui sait. Et alors, on s'achemine petit à petit vers un agnosticisme, c'est-à-dire quelque chose où on ne peut pas avoir de certitude, quoi. Et c'est finalement notre époque aussi qui aboutit à cela. Alors, conclusion du vicaire, voici le scepticisme involontaire où je suis resté. Je le dis, scepticisme. Mais ce scepticisme ne m'est nullement pénible. Je sers Dieu dans la simplicité de mon cœur. Je ne cherche à savoir que ce qui importe à ma conduite, donc une morale. La foi, la religion, comme ils disent, n'est qu'une morale. Quant au dogme, qui n'influe ni sur les actions ni sur la morale, je ne m'en mets nullement en peine. Voilà. Alors ça, c'est le drame. Parce que quand on réduit l'évangile à une morale et qu'on la coupe de la foi, de la doctrine, de ce qu'il appelle ici les dogmes qui la sous-tendent, eh bien, au bout du compte, on détruit la morale. Alors, nous allons avoir un 19e siècle qui va être marqué par un protestantisme libéral, qui va insister sur la morale. Et cette morale n'est pas remise en question. Et puis, au 20e siècle, on remet aussi la morale en question. Et finalement, que reste-t-il ? Il ne reste plus rien. Et dans les églises, aujourd'hui, hélas, on en est là. Alors, écoutez la suite, on termine. Je regarde toutes les religions particulières comme autant d'institutions salutaires. Ça, n'importe quel théologien moderne pourrait signer ça dès demain. Je les crois toutes bonnes quand on y sert Dieu convenablement. Le culte essentiel est celui du cœur. Dieu n'en rejette point l'hommage quand il est sincère, sous quelque forme qu'il soit offert. Vous avez là ici tous les éléments, justement, de la religiosité moderne. Alors voilà. Ça, c'est, si vous voulez, l'anglicanisme au XVIIIe siècle, en Angleterre. Et c'est dans ce contexte-là que va naître John Wesley. Maintenant, John Wesley, heureusement pour lui, n'est pas simplement soumis à l'influence de ce déisme-là, scepticisme, comme dit Jean-Jacques Rousseau, mais le puritanisme, un siècle auparavant, a eu un gros impact sur le pays. Et la réaction déiste, en fin de compte, est une réaction anti-puritaine. Par exemple, c'est l'époque où, en Angleterre, un certain Thomas Paine, P-A-N-E, diffuse la pensée de Voltaire. Aux États-Unis, nous avons le même phénomène, par exemple avec des gens comme Thomas Jefferson, qui deviendra président des États-Unis, et Benjamin Franklin. Il faudrait citer aussi le scepticisme et le rationalisme d'un homme comme Robert Ingersoll. Et là, n'est-ce pas, aux États-Unis, avant que le réveil de Nouvelle-Angleterre n'éclate, l'état religieux et spirituel des États-Unis est absolument déplorable. En fin de compte, il va y avoir en Angleterre, puis en Amérique, indépendamment d'ailleurs du réveil de Jonathan Edwards, parce que le réveil wesleyen va gagner également les États-Unis, n'est-ce pas ? Il va y avoir une grande réaction de Dieu. Une réaction qui sera le pendant anglo-saxon du piétisme de Zinzendorf. Et là, nous allons avoir un certain nombre d'hommes que le Seigneur va utiliser pour cela. Alors qu'on peut dire qu'il y avait un homme qui était au centre de ce mouvement piétiste, qui était Zinzendorf lui-même, bien entendu avec de très très nombreux collaborateurs par la suite, n'est-ce pas ? Il va y avoir ici, bien sûr, une équipe, on peut dire, une équipe de gens qui vont surgir. D'abord, les frères Wesley, John et Charles. Bien entendu, l'homme de pointe sera quand même John, mais il y a d'autres hommes qui vont jouer un rôle extrêmement important dans le réveil wesleyen, dans le réveil méthodiste, dont Charles Wesley, Whitefield, et puis un certain William Fletcher. John sera le promoteur, le grand prédicateur. Whitefield sera aussi un très grand prédicateur. Charles sera le poète, le chantre. Il va écrire de très très nombreux cantiques. Et le ministère qu'il va avoir sera un ministère par le chant. C'est tout à fait intéressant, n'est-ce pas ? Mais on est bien loin, évidemment, des espèces de chanteurs modernes, là, de rock et de choses semblables. C'est le compositeur d'un certain nombre de cantiques que nous chantons encore. Finalement, il y a le même phénomène que dans le Réveil morave, n'est-ce pas ? C'est une production hymnologique extrêmement importante qui naît justement dans le feu de ce réveil méthodiste. Et puis, Fletcher sera le théologien du mouvement. Voyez-vous, il y a une espèce de répartition des tâches qui naît ici de cette manière. Alors, au XVIIIe siècle, l'Église d'Angleterre aussi est corrompue. C'est pas seulement la société anglaise qui est corrompue, c'est l'Église anglicane qui l'est aussi. Les évangéliques, que l'on appelait les non-conformistes, avaient aussi pas mal perdu de leur feu, de leur ferveur passée. Quant aux puritains, ils avaient tout simplement disparu, même si leur influence se faisait encore sentir. Et c'est ainsi que, par exemple, à cette époque, deux philosophes français visitent l'Angleterre, Voltaire et Montesquieu, et ils sont réjouis, bien entendu, de voir ce qu'ils constatent là-bas. Ils peuvent annoncer la fin du christianisme en Angleterre. Ça vous montre à quel état de décadence est arrivée l'Église d'Angleterre. Décadence des mœurs, à la fois dans l'aristocratie et dans les classes populaires. Dans les classes populaires, c'est surtout l'ivrognerie. L'ivrognerie est un des fléaux auxquels les frères Wesley vont devoir se confronter. Alors, dans ce contexte, quelques anglicans ont créé ce qu'ils appellent la Société pour la réforme des mœurs. C'est le premier essai de réaction à cette évolution-là. Et trois pasteurs anglicans créent des mouvements de jeunesse par lesquels ils espèrent réveiller un peu l'Église. Mais quand Wesley sera adolescent, eh bien, ces mouvements de jeunesse, malheureusement, auront disparu sans avoir eu finalement un impact très très important sur l'Angleterre. Donc, John Wesley, né en 1603, donc dans ce contexte-là, et il est fils de pasteur. Son père, Samuel, a d'ailleurs été emprisonné plusieurs fois parce que justement il avait quitté l'Église anglicane et finalement il acceptera de revenir dans le cadre, dans le sein de l'Église d'Angleterre et il exercera pendant 39 ans un ministère dans la ville de Epworth. Et E-P-W-E-O-R-T-H. Il faut dire que Wesley a un extraordinaire avantage, c'est qu'il a pour mère une femme de Dieu d'une envergure peu commune. Cette femme, qui donc est vraiment quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, consacre John Wesley au service de Dieu à sa naissance. Avant sa naissance, quand elle en est enceinte, elle prie pour lui, demandant au Seigneur d'en faire un prédicateur de l'Évangile. Et quand John naît, eh bien, sa mère l'éduque, si vous voulez, dans cette perspective du ministère et du service de Dieu. Elle le fait pour tous ses enfants, n'est-ce pas ? Et pour Charles aussi, n'est-ce pas ? Mais John est celui qui sera le plus profondément marqué par la piété de sa mère. Elle a 8 enfants. Le foyer de John Wesley comprend 8 enfants, garçons et filles, bien sûr. Et la mère, n'est-ce pas, prend la peine de passer chaque semaine 2 heures d'entretien avec chacun de ses 8 enfants pour faire le point spirituel, n'est-ce pas, de leur état spirituel à chacun d'entre eux. En 1709, alors que John a 6 ans, dans la maison familiale éclate un incendie. Et logiquement, les enfants dorment dans les chambres, n'est-ce pas ? Et finalement, c'est par miracle qu'ils sont sauvés. En particulier que John est sauvé, celui qui était le plus menacé par cet incendie-là. Et c'est alors que sa mère conclut que si le Seigneur l'a gardé, l'a préservé de cet incendie dans lequel il aurait dû périr, eh bien, c'est que Dieu lui confiait quelque chose de grand. Et à partir de ce moment-là, sa mère est non seulement persuadée qu'il va avoir un ministère pastoral, n'est-ce pas, mais que ce sera un ministère peu commun. Et elle va passer beaucoup de temps, n'est-ce pas, à prier pour lui. Et puis elle veille sur lui avec une attention très particulière, n'est-ce pas, en fonction précisément de ce ministère qu'elle ressent comme étant justement l'amorce d'un grand ministère. Alors, bien entendu, le jeune John est très pieux, très jeune. C'est évident que dans un tel contexte, avec une telle mère, il ne peut pas en être autrement. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour tous ses frères. Et il apparaît très vite que c'est un garçon très intelligent. Il va donc faire de très, très brillantes études, notamment à Oxford. Sa mère l'envoie à Oxford, ça, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'elle ait faite. Oxford, bien entendu, c'est encore, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, l'université d'Angleterre la plus cotée, mais en même temps, c'est celle où règne justement la fameuse philosophie des Lumières. Et le jeune John Wesley va passer brutalement de l'atmosphère de foi piétiste, si l'on peut dire, qui était celle de sa mère, à ce déisme-là. Et alors, sa foi va être passablement ébranlée, justement, par cette situation-là. C'est à 17 ans, en 1720, qu'il entre au collège de Christ Church à Oxford. Et là, il va se passionner tout particulièrement pour les grands classiques. Alors là, il va se trouver un petit peu dans la situation de Jean-Jacques Rousseau qui est exprimée dans cette confession du vicaire savoyard. C'est-à-dire, d'une part, une conviction, n'est-ce pas, très forte, que l'Évangile est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'exceptionnel. Et puis, en même temps, n'est-ce pas, il a des doutes, il a des luttes, il a des combats sur la réalité des miracles. Sur la réalité de la naissance virginale, sur la réalité de la résurrection du Christ, etc. Enfin, des choses comme ça. Et alors, il est tourmenté par ces questions-là, jusqu'au moment où il se joint, alors qu'il est là-bas, n'est-ce pas, à quelques amis qui ont une recherche du même ordre. C'est en fait son frère Charles qui va l'entraîner, n'est-ce pas, dans cette espèce de club qui s'appelle le club Holy Club, n'est-ce pas, Club Saint, en quelque sorte, où se rassemblent quelques étudiants d'Oxford qui créent un petit cercle de réflexion, d'études, de prières, en fin de compte, n'est-ce pas. Et alors là... Ils reprennent, si vous voulez, les bases un peu du puritanisme qui a passé. Et quand John rejoint ce club, auquel déjà son frère Charles participe depuis un certain temps, donc c'est en 1729, eh bien, John va prendre un ascendant très vite sur les autres membres de ce club et il va très vite en devenir le leader. C'est un homme qui est très méthodique. Et c'est d'ailleurs...